internationale, il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Le journal avec Martin Guez.
Et à demain, Marion Cazeneuve. Le 39e sommet de l'Union africaine, c'est parti avec ces déclarations choc du président de la commission, Mahmoud Ali Youssouf. L'extermination du peuple palestinien doit cesser, a déclaré le Djiboutien. Un sommet politique, sécuritaire, qui se penchera aussi sur les enjeux d'accès à l'eau sur le continent. Polémique en Irlande, alors que la police de l'immigration américaine utilise l'un des aéroports du pays pour faire transiter des personnes expulsées depuis les États-Unis. Nous serons aussi dans ce journal en Corée du Sud, où l'ancien président Yoon Suk-yeol risque la peine de mort, une peine symbolique et non appliquée dans le pays. Mais l'ex-chef d'État destitué pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux à quelques jours du verdict de son procès. Ses soutiens se mobilisent. Et puis enfin, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, l'occasion d'exhumer les plus belles lettres d'amour de Grande-Bretagne. Extrait choisi avec Emeline Vin en fin de journal. Et passation de pouvoir prévue aujourd'hui à Addis Abeba entre le président angolais João Lourenço et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, puisque la présidence tournante de l'Union africaine passe au Burundi en marge de ce 39e sommet annuel de l'Union africaine. Un sommet qui a débuté par cette déclaration fracassante du président de la commission de l'UA. L'extermination du peuple palestinien doit cesser, a déclaré le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf lors du discours d'ouverture. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents pour passer en revue l'agenda politique, sécuritaire et aussi se pencher sur le dossier de l'accès à l'eau, alors que 400 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Jeanne Richard.
L'Afrique n'est pas dépourvue d'eau, mais cette ressource est inégalement répartie, explique Yves Tremblay, directeur de recherche à l'IRD.
Il faut constater deux types de réserves d'eau principales, les eaux souterraines, qui sont malheureusement dans de nombreuses régions surexploitées, c'est le cas par exemple de l'Afrique du Nord, et puis les zones intertropicales, où on a une précipitation, une pluviométrie abondante, mais avec des cycles de sécheresse, de récurrence plus en plus importante. C'est des ressources qui ne sont pas forcément sécurisées dans l'avenir, en fait.
En plus de l'impact du changement climatique, les besoins en eau vont augmenter avec l'agriculture et une population africaine amenée à doubler d'ici 2050. Résultat, un risque de conflit qui augmente, explique l'hydrologue Emma Aziza.
On a des problèmes entre pays parce que certains vont soit avoir de l'eau et les autres vont en vouloir, soit ils vont être en tête de bassin versant et donc avoir la capacité de fabriquer des barrages. C'est le cas par exemple de l'Éthiopie sur le Nil et de l'Égypte. C'est une forme d'arme de dissuasion, le fait de pouvoir stocker en amont de l'eau et de diriger les quantités qui vont devoir s'écouler à l'aval.
Il est essentiel d'anticiper ces risques, de développer une hydrodiplomatie et pour faire revenir la pluie et retenir l'eau, il faut réparer la nature.
Un sommet de l'Union africaine auquel participe aussi le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Il était ce matin notre invité exceptionnel. Entretien à retrouver sur RFI.fr. Autre invité, autre sommet, Oleksandr Prodoukhin est lui à Munich. Il est le gouverneur de la ville ukrainienne de Kherson. Il sera sur RFI à la mi-journée à 12h15, temps universel avec Julien Chavanne. Munich où se tient la 62e conférence mondiale sur la sécurité. Hier, une réunion sur l'Ukraine s'est tenue, mais sans le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, absent de la table ronde, alors que des pourparlers avec des représentants ukrainiens, russes et une délégation américaine doivent se dérouler mardi et mercredi à Genève. Un aéroport en pleine tempête en Irlande, une tempête médiatique autour de l'aéroport de Shannon, près dans l'œil du cyclone situé dans l'ouest du pays. Il est utilisé comme escale par l'ICE, la police de l'immigration américaine. Dans le cadre de sa politique d'expulsion massive, des avions de l'administration Trump se sont notamment arrêtés à Shannon pour faire le plein de carburant avant de repartir vers l'Égypte où sont expulsés des migrants palestiniens. Les conditions de détention de ces derniers ont particulièrement révolté l'opinion irlandaise. Clémence Pénard.
C'est déjà le 6e vol d'expulsion de l'ICE à faire halte à Shannon après la traversée de l'Atlantique depuis le retour au pouvoir de Donald Trump il y a un an. Et selon The Guardian, deux de ces vols visaient à expulser des Palestiniens arrêtés par l'ICE vers la Cisjordanie occupée par Israël. Alors en Irlande, la polémique enfle, plusieurs politiques de l'opposition dénoncent une pratique répréhensible et potentiellement contraire aux principes internationaux des droits humains, notamment en raison des conditions dans lesquelles les personnes sont déportées, parfois menottés pendant le vol et laissés à l'atterrissage dans des zones de guerre. Certains vont jusqu'à évoquer une forme de complicité dans ces opérations d'expulsion. Un jet privé appartenant au magnat de l'immobilier Gilles Deser, ami de longue date du président américain, aurait été mobilisé pour ces vols. Le gouvernement irlandais se défend donc dans la mesure où ces appareils sont enregistrés comme vols privés. Ils n'ont pas eu à solliciter d'autorisation spécifique de la part des autorités. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Le président américain Donald Trump affirme qu'il se rendra bientôt au Venezuela sans en préciser la date. Les États-Unis, qui ont par ailleurs autorisé 5 entreprises pétrolières à reprendre ou à développer leurs opérations au Venezuela sous la supervision étroite de Washington. Le Venezuela, enfin, où le chef du Parlement vient d'annoncer la libération de 17 prisonniers politiques alors qu'une loi d'amnistie générale est annoncée dans le pays. RFI, il est 17h05 à Séoul, où le verdict du procès de Yoon Suk-yeol est attendu jeudi prochain. L'ancien président, qui avait déclaré la loi martiale en Corée du Sud en décembre 2024, est accusé d'avoir mené une insurrection dans le pays, destitué puis déjà condamné à 5 ans de prison. Il risque cette fois d'être condamné à la peine de mort requise par les procureurs, bien que la peine capitale soit abolie en Corée du Sud. Les soutiens de Yoon Suk-yeol se sont rassemblés près de la cour, où il sera jugé. Reportage de notre correspondante Camille Ruiz.
Banderole, pins, gilets, casquettes, partout dans ce rassemblement, on peut lire l'inscription « Yoon again ». Ses admirateurs de l'ancien président sud-coréen espèrent encore son retour, malgré l'élection présidentielle de juin qu'a remporté le démocrate Lee Jae-myung. Le conservateur Yoon Suk-yeol avait été destitué par la Cour constitutionnelle en avril 2025 à la suite de son coup de force fin 2024.
Cette loi martiale était tellement justifiée que je suis convaincu que le président Yoon a déclaré l'état d'urgence dans le seul but de sauver le pays. C'est pourquoi j'ai fait le long voyage depuis Busan, malgré mon âge, 73 ans. En ce qui concerne le procès, je m'attends à un acquittement, bien sûr.
Nous avons organisé des rassemblements et des manifestations à chaque fois que le président comparaissait devant le tribunal. C'est pourquoi, cette fois encore, nous prévoyons de veiller toute la nuit du 18 au 19 dans l'espoir d'un dénouement favorable, jusqu'à ce que le verdict du président soit rendu.
J'espère vraiment que le président Yoon Suk-yeol ne sera pas condamné à mort ou à de la prison à vie. Je prie pour qu'il soit acquitté.
Même si l'ex-chef d'État est condamné à mort, la peine capitale est considérée comme de facto abolie en Corée du Sud. Le jugement sera retransmis en direct à la télévision sud-coréenne jeudi prochain. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
L'opposition islamiste au Bangladesh reconnaît la victoire du BNP aux élections législatives. Et plus rien ne bouche la voie à Tariq Rahman, le chef du parti nationaliste, qui devrait donc devenir prochainement le nouveau Premier ministre du 8e pays le plus peuplé au monde. Son parti revendique 212 des 300 sièges de la Chambre unique du pays. Et puis enfin, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, fête commerciale qui célèbre l'amour à travers le monde. Et loin des bouquets de fleurs et des boîtes de chocolat, le musée des archives nationales britanniques de Londres expose, lui, les plus célèbres lettres d'amour de ses collections pour nous. Emeline Vin a chiné quelques missives d'amoureux.
C'est une lettre de quelques lignes qui porte le sceau de Buckingham Palace et qui date de 1936. Le roi Édouard VIII abdique.
C'est probablement la lettre d'amour la plus connue du pays.
Vicky Iglikowski-Broad, commissaire de l'exposition Love Letters.
Ce document reflète l'amour d'Édouard VIII pour Wallis Simpson, une américaine doublement divorcée. À l'époque, la relation faisait scandale pour un monarque, donc il renonce au trône pour elle.
He gives up the throne for her. Sans ce sacrifice, Elisabeth II ne serait jamais devenue reine. This is a very practical document.
C'est un document très terre à terre qui montre une procédure légale. On est loin des belles lettres calligraphiées, mais c'est un geste lourd de sens.
A really meaningful gesture. Juste à côté, un courrier adressé à Elisabeth Ière par son amant présumé. Pour Sean Cunningham, responsable des collections médiévales, les documents intimes ont parfaitement leur place dans les archives nationales.
La plupart de nos archives montrent comment fonctionnent les gouvernements, mais derrière se trouvent des gens, des relations. Ces fenêtres sur le passé sont formidables car elles nous montrent que ces personnes étaient comme nous et qu'elles partageaient nos émotions, nos problèmes de la vie quotidienne.
Juste à côté, des messages codés dévoilent une facette plus sombre de l'histoire, celle de l'amour homosexuel, quand celui-ci était interdit dans les années 50. Emeline Vin, Londres, RFI.
Allez, enfin, on se quitte au jeudi vert de Milan Cortina et le podium au classement reste inchangé. La Norvège qui domine toujours le classement des médailles, avec hier une nouvelle médaille d'or pour Johannes Klebe, le fondeur qui en est à 3 titres olympiques dans ces Jeux Olympiques. La France, elle, qui remonte au 4e rang, tandis que le Kazakhstan a décroché de son côté sa première médaille d'or depuis 32 ans grâce à Mikhail Shaidorov, sacré hier en patinage artistique. Le grandissime favori américain Ilya Malinin n'a terminé qu'à la 8e place. Et puis enfin, un petit mot de football, le PSG qui a coulé à Rennes, défaite 3-1 en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Même score pour Monaco, vainqueur de Nantes avec un doublé de l'Ivoirien Simon Adingra. L'infosport qui est à retrouver à 17h10 temps universel. Hugo Moissonnier et ses invités s'intéresseront au hockey sur glace. À ne pas manquer, ce sera Mondial Sport.
L'art de raconter. et le monde, Jean-François Cadet.
Il parle, j'écoute à peine. Sortez-les de la scène. Dépecez les corps et donnez les os sans remords à ma chienne. J'envoie une à la tienne, aux peu de scrupules qui te retiennent. Si j'avais su à quel point tu pues, j'aurais de suite changé la chaîne. Même malgré ma flemme, serais parti planter ma lame dans la puanteur de ton crâne après avoir étranglé ta femme. Un massacre, quoi qu'il advienne, que leur baltringue de candidats vienne. Tant qu'on les pend ou qu'on les traîne, un social club est en fin indienne. Tu es influençable, peu nuancé et nul en son. Essaie de repenser à ce projet de te lancer. Longtemps que j'ai délaissé l'idée d'aller te faire la leçon. Aucune parole vraiment sensée n'ont jamais convaincu un con. Cette fois c'est la dernière, mon équipe est la derrière à l'intérieur et souhaite te faire passer purement par la verrière. On passe nos vies entières à déclarer vos villes en guerre et puis scalper vos mères avant prière et mise en bière.
On devait tous sauter à la fin du décompte, qu'il rappe à Bercy ou bien dans les décomptes. Je me demande souvent où est-ce que je suis béton. 99% des MC sont très cons. On devait tous sauter à la fin du décompte, qu'il rappe à Bercy ou bien dans les décomptes. Je me demande souvent où est-ce que je suis béton.
We'll be right back. De tenir l'antenne 24h sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif. 102.4 FM. Thank you.
une semaine difficile, vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Principe actif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
mais les pattes on se vautre et se plombe les dents. C'est l'ère du numérique, même le talent se jauge au nombre de ventes, on se trompe de sens.
Sombrement.
Pour cause j'entends les grondements, les panneaux sont géants, mais malheureusement tout le monde tombe dedans. Merde, merde, c'est pourtant pas ce qu'on avait prédit. Trop de pédis, trop peu d'estime, peu de répit pour le mépris. Yeah, on se perd, et puis le temps défile, mais on prend le temps de l'écrire, de le dire. Et c'est pour ça qu'on rappe, accélérant le débit. Chacun donne du crédit pour exister, trop de frustration.